Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour cette belle émission Mission Vision. Et là, l'émission tombe dans la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui est du 1er au 7 juin. Et aujourd'hui, ben, j'avais envie, juste dans ma petite intro, là, de dire qu'on avait tout le monde une responsabilité dans cette semaine-là, parce que oui, ça fait 30 ans qu'il y a la Semaine québécoise, mais c'est aussi parce que, comme humain, je pense qu'on a une responsabilité individuelle et collective, et là-dedans, j'inclus tout le monde, même les personnes en situation de handicap. Nous aussi, on a une responsabilité, et c'est de parler, c'est de dire c'est quoi nos besoins, c'est de faire entendre notre voix. Donc moi, aujourd'hui, je reçois deux beaux invités. Comme d'habitude, je vais commencer avec Mathieu Rochette, et tout de suite après, je vais accueillir Corinne Lepage. Donc j'ai Mathieu à côté de moi. Bonjour Mathieu.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Ben ça va super bien. Mais j'ai un peu la voix enrouée, mais ça va bien.
Oh, ça s'entend presque pas.
Tant mieux.
Mais je suis vraiment contente parce que Mathieu, on s'est parlé au téléphone, mais on ne s'était jamais rencontré.
Non, c'est vrai.
Et Mathieu, t'es coordonnateur des programmes à la SAC. On avait reçu Marc Lemieux, qui est directeur général, mais la SAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Mais là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouve que cette émission-là, mes deux invités, ils ont vraiment une racine commune qui est au niveau de la résilience. Bon, souvent, on dit ce mot-là, mais vraiment, particulièrement, ces deux invités-là, vous allez comprendre qu'ils ont vraiment quelque chose de très fort en eux pour avoir passé au travers d'énormément d'adversités. Et Mathieu, oui, on va parler, bon, la SAC, tout ça, mais moi, j'avais vraiment envie d'aller dans un sujet un petit peu plus sensible parce que tu m'en as parlé, donc tu m'as dit, moi, je suis très à l'aise d'aborder... C'est comme tous les sujets qui étaient écrits dans ce que tu m'avais dit. Mais je trouve que tu as été vraiment très transparent. Et on parle souvent de l'handicap, mais on va dire un petit peu comme justement, quand on a un handicap, on doit être résilient. Hein? C'est comme ça se fait naturellement. Mais il y a aussi des côtés très sombres à avoir un handicap et tout le processus à travers ça aussi d'acceptation, le deuil. Et j'avais envie qu'on parle un petit peu de ta trajectoire parce que au départ, c'est un gars qui est un athlète et tout ça. Ensuite, ça a glissé au niveau de la consommation et maintenant, tu es sobre. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ça faisait une belle transition d'aller parler finalement de ce côté-là, cette partie-là de la consommation qu'on n'a pas parlé encore dans cette émission-là. Est-ce que tu es à l'aise d'aller là?
Ben oui, absolument.
OK. Ouais. Donc, au départ, dans le fond, tu dis que tu as été un athlète. On peut-tu dire que tu étais comme un athlète paralympique? Parce que tu as parlé de championnat du monde, que tu étais autant au niveau junior que finalement adulte.
Ouais, ben je peux pas avoir le titre. Ben, j'ai pas le titre de paralympien, puis je l'aurais pas. Je ne l'aurai jamais parce que je me suis pas rendu aux Paralympiques.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai fait les... En 2004, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à jouer avec l'équipe de goalball du Québec. À la fois junior, j'étais sur plus sur les bancs au niveau senior.
OK, OK.
Puis au fil des années, j'ai fait l'équipe senior, formelle au niveau provincial. J'ai été dans le roster pour l'équipe nationale.
Ah.
Et j'ai fait l'équipe junior nationale pour les championnats du monde là, au Colorado.
OK. Donc, tu n'as pas le titre du paralympien,
non.
Mais tu es quand même pas très loin.
Oui, la cas juste avant.
C'est un peu comme au hockey, tu sais, les joueurs qui vont se rendre junior majeur, ils vont peut-être pas aller dans les pros, ils peuvent faire des fois des équipes internationales.
Exact.
C'est un peu ça, dans le fond.
Oui, ça ressemble à ça.
OK.
J'ai arrêté juste avant. J'étais dans le... Parce que il y a aussi une question de performance puis de qui était là à l'époque.
Oui.
J'étais pour les niveaux seniors, j'étais... Bon, le classement, je m'en rappelle plus,
mm-hmm.
Mais on va dire 7, 8, 9 dans ces eaux-là. Puis
OK, quand
même. Puis on envoie 6 joueurs par équipe. Donc, j'étais vraiment dans le roster de développement. C'était proche, mais j'avais été... j'ai arrêté avant. Est-ce que j'aurais pu me rendre? Peut-être, je ne saurais pas.
Okay.
C'est pas important.
Puis tu as joué de quel âge à quel âge?
J'ai joué actif de 2004 à 2011, donc 7 ans. J'ai arrêté j'ai entre guillemets pris ma retraite des équipes en 2011.
Ouais.
Puis j'ai continué à jouer un peu sur le côté pour le plaisir, plus particulièrement là, dans les 3 dernières années où je suis plus revenu au niveau participatif dans le développement du bassin. Ça, j'ai joué formellement là, 7 ans dans les équipes provinciales.
Donc, tu as arrêté, tu avais quel âge?
21.
Ouais. OK, donc, tu étais quand même encore très jeune, là.
Oui, ça aurait pu... Normalement, il y a un pic de carrière où ce qu'on se dit souvent, là, ça va être autour de 25, mm-hmm, 29 mm-hmm. ans. Donc, oui, je commençais, j'approchais techniquement là, dans la fenêtre du pic.
OK. Ouais. Et toi, Mathieu, tu es né avec une vision partielle,
ouais.
Mais maintenant, tu es aveugle.
Oui, complètement. Ouais, c'est bon. L'amaurose de Lébert, donc c'est...
Oh, je connais pas. La quoi, là?
Amaurose de Lébert.
Mais j'ai déjà entendu quelque chose
ouais,
de
ouais.
Lebert. Il y en a tellement, moi-même.
Il y en a
moi-même.
Une couple de variantes. Non, super.
Oui.
Mais c'est dans le fond, c'est ma vision centrale qui a commencé à diminuer.
OK.
Puis c'est comme une espèce... Je vais le vulgariser comme ça. C'est comme une grosse tache, un gros
ouais.
nuage. Puis avec à l'adolescence, le nuage a pris plus d'ampleur. Puis
okay.
là, le reste du champ visuel et compagnie a commencé à réduire. Mais ouais, j'y vais à peu près 25-30% d'une vision régulière jusqu'à l'âge de 11-12 ans.
Oh, quand même. OK.
Puis
donc,
après ça, ça a descendu là, quand
ça
même assez vite.
Ouais. OK. Donc, c'est pas à 21 ans que tu as perdu la
non.
vue et que ça pourrait avoir expliqué la descente là, au niveau de la consommation.
Non.
C'est ça.
J'aime dire souvent l'handicap de... Tu sais, ton handicap, là, dans mon cas, c'est l'handicap visuel.
Mm-hmm.
Et certainement, un enjeu que toute personne qui vit en situation d'handicap doit...
Composer
avec.
Oui.
Ça a ses limites, ça a mm-hmm. ses épreuves. Bon, mais il y a d'autres choses aussi dans la vie courante qu'il y a plein de choses qui se passent,
ben,
parce que
ça
c'est
reste
pas nécessairement l'handicap.
Ben, c'est ça, on est un humain, là, donc à travers ça, on a des peines d'amour, on a des enjeux de travail.
C'est ça.
Ben oui, mais des fois, on l'oublie.
Puis souvent, on l'oublie parce qu'on va... C'est un peu l'espèce de première remarque qu'on va poser sur quelqu'un, si c'est un handicap physique, donc plus apparent,
oui.
Ben, on va dire « Ah! » OK, bien, il y a de la misère à faire telle chose,
comme
parce que à cause de ça. Mais
c'est ça.
Mais c'est plus profond. Mais oui, non, moi, dans mon cas, faut...
Parce que c'était pas... Tu consommais pas quand tu étais athlète.
Non.
Tu n'avais pas commencé du tout.
Non, c'est ça, j'ai commencé sur le tard.
Mais c'est ça.
Disons que la bière, le phare, ces choses-là, pas plus,
oui.
pas moins que n'importe quel ado qui est en...
Mais oui, qui explore.
Bon, qui explore, puis mm-hmm. Non. Ben, puis, tu sais, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait...
En consommant.
Pas quand tu es dans un mode de développement. Tu sais, j'étais à l'école temps plein.
Mm-hmm.
Je m'entraînais progressivement. C'est sûr qu'à 14 ans, c'était pas la même fréquence, le même...
Qu'à 20 ans?
Non, c'est ça, exact.
Non, c'est ça.
Mais ça reste quand même l'école temps plein. Après ça, bien, c'est de la progression. Tu te rends pas ces équipes nationaux mm-hmm. ou provinciaux en faisant juste 2-3 heures de sport semaine. Donc, on parle de quand même une quinzaine, vingtaine d'heures d'entraînement sur le terrain, en gym. C'est toute l'éthique aussi. Dans ta vie, c'est une discipline
complète.
Ah
oui, ben oui.
Et je travaillais aussi j'ai commencé à travailler à temps partiel à 17 ans. Donc, mes semaines étaient remplies.
Ouais.
Donc, rajoute l'alcool là-dedans, ça aurait été impossible.
Mais
c'est sûr.
Non, c'est ça.
Est-ce
que, tu sais, toi-même, est-ce que tu es en mesure de dire, OK, bon, ben quand j'ai arrêté, qu'est-ce qui fait, en fait, t'as arrêté à 21 ans spécifiquement? Y a-tu une... Ouais, tu sais, comme...
Bien, il y a plusieurs facteurs. Le premier qui a été le plus dur, puis c'est là qu'à un moment donné, c'est tout te remet en question, les blessures.
Physiques.
Oui, j'ai eu des blessures quand même assez importantes mm-hmm. En 2019.
Oui.
Qui fait que j'ai été un peu challengé à 2-3 mois, 4 mois à pas pouvoir faire grand-chose. Puis, tu sais, c'est là que quand tu arrives dans des hauts sommets comme ça, puis que tu es blessé, puis tu es incapable de pouvoir performer parce que tu es blessé, ben c'est... tu sais, on le voit souvent dans le sport professionnel, ou du moins, on l'entend beaucoup, là, c'est souvent des tabous, mais de dire, bon, on va geler le bobo parce que moi, si je performe pas, j'ai pas mon contrat l'année prochaine.
Mm-hmm.
Donc, quand les athlètes de haut niveau, tout sport confondu, la question, c'est pas est-ce qu'il est blessé, c'est est-ce qu'il est suffisamment... Est-ce qu'il est blessé assez pour ne pas pouvoir performer ou pas? Mais tous les athlètes de haut niveau sont tout le temps blessés.
Ben ça, oui, c'est, ça, mais, c'est, mais en fait, du moment fait, que tu es dans une trajectoire comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des blessures physiques. Là. C'est utopique de dire que tu n'auras jamais
de blessures. Tu n'es jamais à 100%.
Ben
jamais.
Non.
Donc, ça a été un peu, dans ces époques, dans ces années-là, ça a été très challengeant là, de composer avec ça. Il y a eu des... Tu sais, moi, j'ai eu des l'école secondaire a fini. Donc là, c'était un peu le flou. Qu'est-ce que je fais comme carrière? Où est-ce que je m'en vais?
Est-ce que tu avais aussi un peu comme tu te définissais comme un athlète? Fait que si t'es pas un athlète, t'es quoi?
Oui, et ça n'a jamais été non plus quelque chose de très clair. J'ai jamais accepté le titre d'athlète.
En partant.
Donc, c'est je l'ai jamais accepté. Je l'ai toujours un peu... Pas que je le boudais, au contraire, mais... en dedans de moi, tu te le fais dire, mais tu te le clames pas. Et ben oui, j'ai fait quand même, bon, j'ai fait des médailles, j'ai fait des performances, mais au final, un athlète, tu sais, le summum d'un athlète, c'était de se rendre aux Paralympiques.
Donc ta définition de l'athlète, c'était ça. C'est pour ça que tu te définissais pas comme un athlète.
Non, puis mais c'est ça. Puis, tu sais, dans toute cette période-là aussi, bon, la période de changement, il y a eu des choses personnelles qui ont causé aussi des certaines fractures, le déménagement, la vie de jeune adulte qui commence.
Mm-hmm. Bien, ça reste qu'à 21 ans, t'es jeune, là.
Oui.
Quand on est rendu plus vieux, c'est là qu'on se rend compte qu'à 21 ans, on est un bébé encore. Là, mais on a l'impression qu'on est adulte et que la vie vient de prendre son envol. Mais il y a plein d'enjeux encore importants à nommer de juste la construction de l'humain adulte.
Absolument. Fait que tu sais, quand tu te retrouves du jour... c'est pas du jour au lendemain, mais ça se fait... C'est insidieux, hein, finalement. C'est des fois que le recul, c'est 2 ans. Tu te rends compte... Maintenant, quand tu te mets dans un siège et tu regardes ce film-là, tu te dis, c'était prévisible. Mais ce coup, tu t'en rends pas compte. Donc, tu sais, les blessures, le ci, le ça, tu sais, à un moment donné, tu te définis comme, ben moi, ma vie dans les 7 dernières années a été, je travaille, j'étudie, je m'entraîne, je performe. C'est du 7-7 pendant 12 mois par année. Puis là, à un moment donné, le corps, peu importe toutes les raisons t'amènent à dire tu peux plus le faire, tu n'es pas capable là. Ça veut pas dire que tu seras pas capable demain, mais là, tu ne l'es pas. Puis à un moment donné, tu es comme, qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que, tu sais, une des pires choses pour un athlète, c'est de réfléchir. On est tellement drainé, on est tellement rodé pour être action-réaction, action-réaction. Donc, quand tu commences à trop réfléchir, bien, c'est là que tu perds ta carte, puis c'est bon de réfléchir en passant, là, j'encourage tout le monde.
Mais non, mais je comprends ce que...
Dans le contexte où j'étais. C'est là que, là, t'es blessé, tu files pas bien, tu sais, j'ai vécu une séparation dans ces années-là.
Bon,
tu sais, il y a tout l'enjeu de la vie personnelle qui amène le reste. Et oui, c'est sûr qu'en parallèle, bien, la vision a quand même encore plus diminué dans ces années-là. Donc là, c'était, je suis plus...
Confronté à être aveugle,
utiliser sa canne blanche. Donc, tu sais, il y a... Tu mets tout ça ensemble.
C'est gros.
Bien, puis là, à un moment donné, ça, tu sais, tu pètes. Ça, j'ai pété. Il y en a qui s'en sort, puis je m'en suis sorti.
Mais t'en es sorti parce que t'es sobre. Mais t'es sobre de l'alcool, ça fait 3 ans. Et au niveau de la drogue, là, on parle de vraiment 15 ans. Là. Mais tu sais, t'as vraiment consommé dans ta vingtaine. Ça veut dire que toi, ça a été drogue et alcool.
Ah oui, un beau cocktail de soirée.
Tout en même temps. Et probablement, quand tu dis que c'est insidieux, c'est aussi que c'est associé au party, sûrement. Quelque chose d'un peu festif. Parce que souvent, on dirait que la personne, c'est plutôt rare, surtout si elle n'a jamais consommé, que tout d'un coup, un soir de pleine lune, là, elle se dit « go, je me Ouais. Tu sais, je consomme et je prends de la drogue
ce
et go.
Ce qui était drôle, ben, puis drôle avec le recul, c'est que c'est niaiseux parce que j'étais anti... tu sais, n'importe
tout
quoi
qui...
Tu sais, l'alcool, disons que c'est différent dans ma perception de l'époque.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ce qui était clair, c'est que inhaler quoi que ce soit, rentrer quoi que ce soit dans tes poumons, c'est tabarouette.
Ouais.
Tu sais, je me rappelle qu'au Colorado, quand t'es plus en altitude, puis tu cherches son souffle, puis je suis comme, Caroline, je cours une heure et demie par jour, puis là, je cherche mon souffle. Ouais. Tu sais, ça... Fait que, imagine-toi, tu rentres de la boucane en plus là-dedans.
Ouais.
Mais c'est ce qui est, tu sais, à un moment donné, c'est... T'as mal, là, t'as quelqu'un qui dit, tiens, prends ça, puis, tu sais, je suis pas innocent, je savais très bien ce que c'était,
mais
oui. Tu sais, c'est comme, ben, puis tu pognes une pof, tu es comme, ah, oh, crime pof, j'ai plus mal.
Exact.
Fait que là, c'est devenu, tu sais, au départ, ça a été un peu de, bon, de toute façon, ma carrière est finie, on arrête ça, tu sais, pourquoi pas, je travaillais déjà dans le milieu de la restauration à cette époque-là, donc, tu sais, tu vis de soir, fait que là, tu sais, tu pars de, je me lève à 6 heures. D'habitude, c'était 5h30, 6h.
Le matin,
à assez l'heure, je me couche.
C'est ça. Là, t'as une vie nocturne.
Complètement. Fait que, je vous le dirais, je vais pas mâcher mes mots, là. C'est plate la nuit si tu consommes pas. Je veux dire, la vaste majorité.
Non, mais oui, mais je comprends, parce que la majorité, je veux dire, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On fait dodo, là.
C'est ça.
Hein? Donc, on a toutes, moi aussi, comme n'importe qui, j'ai été dans des soirées festives, dans des bars, quand j'ai début vingtaine, j'ai vécu aussi ça. Et tu as tout à fait raison que moi, faire toute seule chez nous une nuit blanche, ça arrivera pas, là, à moins que vraiment je fais de l'insomnie.
Oui, c'est
là,
ça.
C'est l'enfer.
Exact.
Mais juste rester réveillée de même pour rester réveillée, ben non, les fois que j'ai fait ça... C'est parce que j'étais avec des amis et qu'on est dans un mode où est-ce que ben on étire, on prend de l'alcool, toute la soirée là, tu sais. Mais fait que oui, je comprends ça. Et là, c'est comme si ta vie était rendue nocturne. Puis là, en même temps, ben là, tous les gens consomment plus, c'est ça. Mais à quel moment t'as vu que tu traversais comme une ligne? Tu sais, parce qu'il y a un moment où est-ce que tu dis, ah, c'est récréatif, tu sais, une fois par semaine avec des chums de gars, mais qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'en as comme besoin. Y a-tu un moment, comme un déclic que t'as fait, OK, il est 8 heures le matin, puis je suis encore en train de consommer?
Moi, le déclic, puis c'est dans ma personnalité, hein, je suis excessif, je suis facile à avoir des addictions, à être... Je pars dans un projet, je vais le faire jusqu'au bout, intense, puis dès que c'est fini, moi, je bouge à une autre affaire. Fait que, ça, c'est dans ma personnalité. Je m'en suis rendu compte à un moment donné quand que je me levais à quelque part entre 11h puis 1h l'après-midi.
Ouais.
Et que une des premières choses que je faisais, c'est que je m'assoyais puis ben je faisais juste rouler des joints.
Ah, ben garde. Non, mais c'est ça.
Le café, t'as même pas coulé ou il coulait. Puis là, t'es déjà en train de partir ta journée.
C'est
puis
ça.
Quand c'est rendu que c'est ton mode de vie, matin, midi, soir, puis il y a... Moi, comme je dis, je suis allé extrême.
Mm-hmm.
La consommation aussi, c'est insidieux parce que un verre, deux verres par jour, tu peux l'être. Ben, en fait, tu peux l'être. Tu es considéré alcoolique.
Oui.
C'est le principe de est-ce que tu en as de besoin?
C'est exactement
c'est
ça.
C'est là la ligne.
Si prendre deux verres par jour, tu es capable d'arrêter n'importe quand. T'es correct. Versus la personne que si elle revient de travailler, ça n'a pas deux bières dans le corps, il n'y a rien qui marche. Mais là, c'est là qu'il y a une dépendance. Donc, toi, ça veut dire que.
Moi, il y avait de la grosse quantité, mais c'est ça, c'est dans mon cas. Mais ça n'a pas commencé du jour au lendemain, là, ça a monté progressivement. Puis à un moment donné, c'est là que tu t'en rends compte quand tu vas voir ton pocheur, puis finalement, au lieu de dépenser 25$ pour ta semaine, t'es rendu à un coût de 150-200$, etc. Donc, tu sais, c'est à un moment donné, il y a l'accoutumance qui embarque.
Mm-hmm.
Dans mon cas, ça a été de la quantité. Fait que, évidemment, comme n'importe quoi, à un moment donné, j'ai frappé le mur. Tu sais,
frappé le mur, mettons. Ouais. C'est quoi l'événement qui fait que tu as frappé le mur? Eh bien, sûrement parce que là, au niveau de la drogue, tu as arrêté beaucoup, tu sais, plusieurs années avant l'alcool. ton mur au niveau de la consommation?
Il y a eu des événements. Il y en a eu un moment donné, c'était un, il y a un trip qui a vraiment mal passé, puis ça a créé des crises d'angoisse.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'était associé beaucoup. C'est le même. Des fois, tu fais des, on va dire, des bad trips.
Des bad trips, bon. Oui, mais c'est souvent, c'est des crises d'angoisse.
Exact. Ouais. Là, mais c'est 2-3 mois plus tard, à un moment donné, je me rappelle, je revenais du travail. Il était, on va dire, 00h30, 1h du matin quand je suis rentré chez nous. Je m'assois pour pogner mon... Je ne me rappelle plus si c'était du hash ou du pot.
Mm-hmm.
Je commence à fumer tranquille. Et là, pow! Ça a pogné le tachycardie, sueur, étourdissement. Puis là, j'ai fait « Tabarouette, qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est là que ça a vraiment parti. Puis ce qui est débile là-dedans, c'est que là, après ça, tu sais, t'as tout ce qui te traverse dans la tête de « qu'est-ce que je fais?
Mm-hmm. »
Fait qu'un coup que j'ai fait, je suis juste pas capable de gérer ça. Fait que j'ai appelé l'ambulance parce que, sur le coup, je pensais que c'était une tachycardie.
Ben oui, tu penses que c'était une crise de cœur.
Exact. Fait que finalement, ça a été... que ce soit une intoxication, peu importe, tu sais, ça arrive des affaires. Mm-hmm. Mais moi, ça a déclenché quelque chose. Puis après, j'ai tellemment eu la chienne.
Oui,
en fait, c'est le premier moteur de l'arrêt a été la peur. Complète de je vais-tu crever.
Mm-hmm.
Fait que, après ça, moi, cette semaine-là, j'ai arrêté du jour au lendemain de consommer.
Oui.
Ça a été une queue de désintox. J'ai pas mangé pendant 4 jours.
Ah ouais, hein?
Puis la seule chose que j'étais capable d'ingurgiter par la suite, c'était des œufs à petite quantité. C'était, honnêtement, là, horrible. C'était dégueulasse. En même temps, c'est là que je m'étais rendu compte que ça faisait probablement 2 ans que j'avais pas rêvé.
Complètement. Toutes tes nuits étaient.
En train de mon foie, puis tout mon système était en train de désintoxiquer. Mais.
T'es-tu allé justement dans une ressource?
Non.
T'as fait ça tout seul chez toi?
Seul chez nous. Mm-hmm. Ce qui est. Tu sais, pour tous ceux qui vont entendre ça, honnêtement, si vous êtes capable, tant mieux, mais je vous encourage tellement à aller chercher de l'aide.
Oui.
Parce que, tu sais, ça, c'était le côté pour la drogue. Après ça, l'alcool a pris plus d'ampleur.
Mais c'est ça que j'allais dire. C'est que là, tu as enlevé la drogue. Mais là, vu que tu prenais aussi de l'alcool, sûrement que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que l'alcool est devenu encore plus présent dans ta vie.
Puis il ne faut pas l'oublier. Hein, l'alcool, c'est socialement accepté.
Oui.
Fait que, tu sais, moi, je travaille encore dans la restauration. J'ai quand même continué, malgré là, un coup, l'épisode de cette phase-là là, de drogue. Mais l'alcool était quand même là.
Oui.
Puis ce qui est con, c'est que le weed et compagnie a été remplacé par la nicotine à la place.
C'est comme un transfert.
Exact. Tu te débarrasses d'une affaire, mais tu le remplaces par d'autres.
Mais oui.